Bien, bon après-midi à toutes et à tous, et merci pour votre présence dans cette salle pour la présentation de ce rapport que nous offre le CEPI, accompagné de ses chercheurs. Nous sommes très honorés par votre présence et après la présentation de ce rapport par M. Henri Coin, président et directeur du CEPI, nous allons entamer une discussion avec les principaux panélistes ici, qui ont été conviés, qui ont eu une idée du rapport et qui vont essayer d'en discuter des résultats. Mais c'est vrai que nous avons commencé à élaborer les premiers éléments de discussion tout à l'heure. Mais nous allons aller un peu plus en profondeur avec ce panel donc, qui est constitué. D'abord de M. Yannick Guélewi, qui est journaliste économique. Il est titulaire d'un diplôme en droit fondamental et d'un master en sociologie politique. Il est passionné des questions de stratégie, il est surtout chef service économie à Royal FM depuis 7 ans déjà et contribue avec nombreuses ONG sur les questions économiques telles que l'agriculture, les manufacturations et le développement du peuple. Monsieur Yannick Guélewi, bienvenue.
Merci.
Merci de répondre à l'invitation de CEPI. Tout juste à ma droite, Monsieur Tchoupé Fossi, tout à l'heure, qui a fait la présentation du CEPI et analyste de recherche au sein du CEPI avec des publications dans le domaine du commerce, le secteur de l'énergie et surtout l'énergie renouvelable. Il est chercheur, étudiant à l'IRIC et travaille étroitement avec les décideurs pour plaider sur les politiques favorables à l'entreprise. Il travaille également en tant que consultant pour les cabinets de recherche économique comme Aid Africa Group, basé à Douala. Il suit la politique économique et environnementale des affaires, comme la loi OADA et les taux d'imposition. Monsieur Tchoupé, aussi bienvenue. Merci d'être là. À mon extrême droite, sans connotation politique, évidemment. Monsieur Henri Coin, qu'on ne présente plus, qui est donc le fondateur du CEPI. Il est surtout expert économique auprès de l'Organisation du Traité Nord-Atlantique, l'OTAN. Il fournit également une orientation stratégique et gère des projets sur la dette, la sécurité et la durabilité en Afrique. Il contribue, il écrit beaucoup, ça il faut le dire, à l'Economist Intelligent Unit où il fournit des conseils et notes économiques sur la région nordique. Entre 2020 et 2022, il a travaillé pour Sterling Global au Royaume-Uni, Benzinga aux États-Unis et One Button Trader aux Pays-Bas. En tant que consultant pour Sterling Global, basé au Royaume-Uni, il a participé à des consultations de recherche et de développement avec Majesty Revenue and Custom. Il a surtout travaillé comme analyste de politique économique au Carrefour Policy Institute et comme consultant en recherche pour le Demographic Dividend parrainé par la fondation Bill et Melinda Gates en 2017. Sur les quoi? Comment vous faites pour porter toutes ces casquettes?
Bien, je suis très vieux, mais merci beaucoup.
Vous ne le faites pas, je vais vous rassurer. En tout cas, voilà le panel constitué autour de moi pour discuter. J'espère que chacun des participants ici présents aura l'occasion d'en mettre également un mot. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les partenaires qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport et surtout, notre souhait, c'est que les résultats soient divulgués jusqu'aux hautes instances qui prennent des décisions dans notre pays. Alors, on va commencer avec les invités. Bienvenue, ça va? Tout le monde se sent bien, Monsieur Yannick Guélewi, ça va?
Non, ça va.
Allez, je vais commencer avec vous. Nous avons parlé tout à l'heure de la zone de libre-échange continentale. Nous avons parlé des accords de partenariat économique, APE. On a eu quelques traces, mais je voudrais commencer avec vous. Lorsqu'on parle des accords de partenariat, précisément de l'AFTA, qu'on appelle la ZECAF, précisément, la zone de libre-échange continentale africaine, quels en sont les éléments clés? Quels sont les indicateurs en termes de date? Qu'est-ce qu'il faut retenir de manière générale de la zone de libre-échange continentale? Quelle est-elle en réalité?
Bon, la zone de libre-échange continentale africaine, c'est un marché, c'est un vaste marché qui répond à un principe de libre échange. Et vous savez, Joseph Gisergo disait que la clé stratégique de la résistance africaine.
Un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Si on parle tous en même temps, on doit passer pour nous.
La renaissance africaine, c'est l'intégration au sens régional. Donc, le continent africain, vous savez, depuis très longtemps, on a évoqué les chiffres ici, c'est un continent qui est pratiquement en marche du commerce international. Et même au sein du continent africain, la proportion est assez faible. Vous avez suivi Henri Kwan tout à l'heure, évoqué un chiffre de 10%. Donc, c'est une proportion très marginale. Et donc, l'Union africaine a décidé que les pays africains doivent davantage densifier leur coopération en interne. Les pays africains qui, pour la plupart, appartiennent à plusieurs organisations régionales au même moment. Vous avez un pays comme le Cameroun qui appartient à la CEMAC, à la CEAC, la République démocratique du Congo peut aller à une extension jusqu'à la SADC. Donc ce sont ces organisations régionales-là qui rendaient un tout petit peu le commerce intra-africain pas très structuré. Et donc les pairs du continent africain ont décidé de remettre dans cette globalité-là tous les pays africains en communion pour que les uns et les autres puissent coopérer, puissent commercer ensemble. La deuxième chose, c'est au niveau de l'inefficacité, des faiblesses observées dans les organisations régionales. Vous savez que la CEMAC, par exemple, c'est l'une des organisations les moins intégrées sur le continent africain. Et le Cameroun y est depuis très longtemps. C'est pour cette raison que vous avez suivi certains spécialistes, à l'instar de Hubert Campan, de regretter mémoire, qui a travaillé fondamentalement sur les questions monétaires et qui avait estimé qu'il était temps pour un géant comme le Cameroun de quitter la CEMAC et d'œuvrer pour les États-Unis d'Afrique. Cet États-Unis d'Afrique-là, c'est un principe évocateur dans lequel s'inscrit donc la zone de libre-échange continentale africaine. Il y a eu, n'est-ce pas, des organisations, notamment l'Union européenne, qui a inspiré, n'est-ce pas, cette marche vers la mise sur pied de cet espace marchand-là. Donc un espace qui voudrait que les produits qui quittent du Cameroun puissent entrer dans un marché comme celui du Nigeria assez facilement. Une opportunité que les Africains ne devraient pas manquer, parce qu'un voisin comme le Nigeria aujourd'hui, c'est pratiquement 190 à 200 millions de consommateurs. Et si le Cameroun est voisin au Nigeria et qu'il n'a pas la possibilité de profiter, par exemple, de l'importation des denrées alimentaires. Les récents chiffres au Fonds externe d'État de ce que le Nigeria a importé pour plus de 1960 milliards de francs CFA. Alors un pays comme le Cameroun, donc le secteur de l'agro-industrie, est contenu dans la stratégie nationale de développement, la politique d'import-substitution. Si on ne profite pas d'un marché dense comme le Nigeria, qui est voisin, et qui souffre de quelques défaillances, donc c'est une réelle problématique. Donc la zone de libre-échange continentale africaine s'inscrit donc dans cette marche pour permettre aux pays africains, ceux qui détiennent des avantages comparatifs, de communier avec ceux qui n'en ont pas, afin qu'on puisse émerger. Donc de manière sommaire, c'est ce qu'on peut tout simplement dire de l'idéal défendu par l'ASDECA.
Merci beaucoup pour cette précision. Je rappelle simplement que c'est la zone de libre-échange continentale repose sur un traité qui a été signé en 2018 et qui est rentré en vigueur, qui a été ratifié par le Cameroun en 2019 déjà et qui est rentré en vigueur en 2018. Alors ça, c'était pour la zone de libre-échange continentale. Monsieur Henri Kwan, je voudrais vous demander, tout à l'heure vous l'avez suffisamment évoqué, mais c'est quoi la zone? Qu'est-ce qu'on met finalement dans les accords de partenariat économique, les APE, dont on a parlé, ça fait énormément de choucra. Quels en sont les indicateurs les plus simples pour le commun des mortels, pour le comprendre? Je rappelle que l'accord de partenariat économique rentré au Cameroun est rentré en vigueur en 2016, si je me trompe, précisément le 4 août 2016. Alors, qu'est-ce qu'on y met en termes d'indicateurs?
Merci beaucoup pour votre question. Donc, tout accord commercial a une structure, une forme. Et les objectifs, c'est d'abord pour réduire les barrières tarifières et non tarifières. Donc, si tu exportes un produit ou un service, tu dois pouvoir le faire sans payer des droits de douane énormes de 20% à 25%, par exemple. Donc, les accords commerciaux réduisent cela jusqu'à 0% pour permettre aux entreprises de vendre leurs produits dans différents pays sans payer les droits de douane. Maintenant, si nous voulons regarder qu'est-ce qu'il y a dans un accord commercial, il y a des protocoles. Comme aujourd'hui, nous avons des protocoles pour enregistrer des personnes, n'est-ce pas? Les lois d'origine, par exemple, sont faites pour ça, enregistrer quel produit a été utilisé ou tiré de quel pays pour être utilisé dans un produit. Il y a des protocoles, des produits et de services, la propriété intellectuelle, les jeunes, les femmes, etc. Tout cela est couvert dans un accord commercial. Maintenant, la manière dont c'est présenté diffère, mais voilà les éléments clés. Parce que dans un accord commercial, nous voulons favoriser le développement économique, toujours, et nous voulons faire cela à travers les institutions ou les entreprises. Dans le cas de la SLECA, on le fait directement avec les entreprises parce qu'on veut que les entreprises elles-mêmes utilisent la SLECA pour commercer en Afrique. Or, avec l'accord du partenariat économique, oui, c'est destiné aux entreprises, mais l'implémentation est beaucoup plus centralisée. Raison pour laquelle nous sommes en train de couper les différentes barrières, les différents tableaux tarifaires des produits en 7 phases. Et couramment, nous sommes à la phase 7. Donc, on va réduire les droits de douane pour des voitures venant de l'Europe pour l'Afrique. Alors, voilà un peu ce que...
Sont les acteurs de cet accord de partenariat économique précisément?
Les acteurs, c'est les membres de la société civile, dont les entreprises, les femmes, les jeunes, les populations marginalisées, les gouvernements, les institutions régionales, les ONG, etc. Tout le monde est touché par les accords commerciaux. Donc tout le monde est inclus et considéré comme partie prenante dans les accords commerciaux.
Les principaux signataires?
Les principaux signataires sont les consommateurs, les entreprises, les gouvernements et les groupes marginalisés.
Alors peut-être en termes de signataires, peut-être. Je parlais du Cameroun, précisément, qui est...
Signataire de la SLECA.
De l'accord de partenariat économique.
Oui, bien sûr. Ouais,
ouais. Et en face,
le Cameroun. En face du Cameroun, l'Union européenne.
Voilà.
Et dans le cas de la SLECA, c'est le Cameroun avec 52 autres pays en Afrique, comme le Nigeria, le Maroc, le Cameroun, etc.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Allez-vous, M. Tchoupé-Foussi, je voudrais qu'on rentre maintenant dans le rapport qu'on a évoqué tout à l'heure. On évaluait l'impact de la zone de libre-échange et des accords partenariats sur l'économie camerounaise, c'est assez grand. Mais allons-y, essayons de regarder secteur après secteur. Je vous propose de regarder un peu l'impact sur le PIB, les salaires et l'emploi. Prenons ces trois éléments. De manière concrète, comment ces trois aspects sont impactés par ces différents accords?
Merci, monsieur Mollet. Parler de l'impact de la SLECA amène à faire des projections, des perspectives sur son apport sur l'économie camerounaise. La Banque mondiale estime à cet effet que la SLECA pourrait favoriser l'accroissement des exportations africaines à hauteur de 560 millions de dollars à l'horizon 2035. Au niveau notamment de son impact sur la croissance camerounaise, il faut dire ici que cette croissance est essentiellement tributaire du rôle des entreprises publiques et privées aussi ailleurs. En ce sens qu'elles doivent être actives et pouvoir tirer les épingles du jeu de l'économie. La SLECA permettra ainsi aux entreprises d'avoir un marché de plus de 1,2 milliard potentiels consommateurs des produits camerounais. Donc il faudra satisfaire les attentes et les besoins de ceux-là. Dans cet ordre d'idées, les activités des entreprises tournées vers l'espoir de développer le crédit à l'égard des PME, qui sont, selon nous, les acteurs clés de cette mise en œuvre de la SLECA. Maintenant, au niveau de la création et de l'amélioration des emplois, et aussi de l'amélioration des revenus d'ailleurs, une étude de la Banque mondiale révèle que la mise en œuvre de la SLECA permettra d'augmenter le revenu réel des Africains à hauteur de 7 à 9% et en réduisant de 45 millions le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Également, on notera une augmentation de 10,3% du salaire des travailleurs non qualifiés de 9,8% des travailleurs qualifiés. De l'autre côté, la ZECA permettra de participer à la création de 18 millions d'emplois additionnels d'ici 2035. Dans cette dynamique, les secteurs susceptibles de connaître une forte croissance à l'horizon 2035 sont entre autres le secteur du textile, des produits chimiques, du caoutchouc, ainsi que celui de la transformation de l'aliment. Enfin, la ZECAP jouera un rôle d'amplificateur dans la mesure où elle permettra au continent de développer ses capacités existantes dans les domaines précités, mais également d'intégrer dans son développement d'autres secteurs d'activité comme celui des industries manufacturières qui occupaient jusque-là une place marginale.
Donc vous laissez penser qu'avec la zone libre-échange continentale, on aura un peu plus d'argent dans les poches ? On aura un peu plus d'argent du Camerounais ? On aura un peu plus d'emplois ?
Je vous fais parler beaucoup plus d'amélioration des conditions de vie. En ce sens que la ZECAP permettra de régulariser un peu plus la situation des Camerounais qui est beaucoup plus dépendante des emplois informels. Et au regard de la situation incidente de cet emploi, il va sentir que la ZECAP, avec sa mise en œuvre effective, permettra de stabiliser la situation.
Alors, avec vous, M. Yannick Nélioui, je voudrais évoquer une question qui est en lien avec celle que je viens de poser à M. Fossi. C'est par rapport aux produits de base. Pour avoir accès au riz, par exemple, le riz qui est un produit de base, le sucre, vraiment des éléments de base. Est-ce que vous pensez que ce soit la ZELCA, que ce soit la PE, est-ce que cela peut contribuer à améliorer la disponibilité de ces produits de base pour les Camerounais? Parce que c'est ça qui est le plus important pour eux. Au-delà de l'économie dans son ensemble, le Camerounais à son petit niveau, est-ce qu'il peut espérer la disponibilité et surtout l'accès à des prix, à prix quand même abordable, de ces produits de base?
Vous avez bien fait tout à l'heure de dire que ça avait un lien avec la question que vous avez tout à l'heure. Parce qu'en réalité, s'il y a zone de libre-échange continentale africaine, ça veut dire qu'il y a accès à un marché. Et lorsqu'il y a accès à un marché, on stimule l'investissement. Et tout à l'heure, on a parlé de la garantie des prêts bancaires parce que le banquier constate que le producteur qui met un produit sur le marché doit le vendre parce qu'il y a le mécanisme qui a été facilité pour vendre le produit. Et donc, lui, il octroie le prêt. Donc, la question du financement ne se pose plus. Ça, c'est un premier avantage qui pourrait stimuler davantage l'investissement. Et quand il y a investissement, on sait le carré magique de Nicolas Cador, quand il y a investissement, il y a offre d'emploi. Lorsqu'il y a offre d'emploi, il y a salaire. Et davantage, les Camerounais pourraient se retrouver en termes d'amélioration du coût de la vie. La deuxième chose ici, c'est au niveau de l'État. L'État camerounais, à travers le ministère des Finances récemment, a estimé qu'ils ont franchi la barre de 4 000 millions en termes de collecte des recettes fiscales. Alors, là, ici, on est en aval. C'est-à-dire que la zone de libre-échange continentale qui stimule davantage l'investissement voudrait dire que les gens seront encouragés à investir. Et si on investit, ça veut dire qu'on paye les taxes. On paye, n'est-ce pas, les impôts. L'État davantage peut améliorer sa cagnotte et c'est à travers cette cagnotte-là que l'État peut payer les salaires. Maintenant, pour déboucher rapidement sur les produits de base dont on parlait tout à l'heure.
Une seconde, désolé, nous devons bien. Oui. Mais tu sais qu'il y a deux ans, n'est-ce pas, où les entreprises ne payent pas d'impôts, etc. Donc il y a au moins aussi deux ans où, quand tu viens investir 100 millions au Cameroun, non seulement de toutes les dépenses que tu as fait avec le taux financier, mais aussi de toutes les positions, tu ne payes pas pour deux ans. Donc également, c'est théorique de considérer. C'est pour ça que c'est dans le long terme, je pense que ces bénéfices deviennent un peu plus visibles dans les communes.
Après, il faut s'interroger sur la réalité de ces mesures d'exonération aussi. Parce qu'une chose est de dire ces mesures, mais une chose est de les implémenter sur le terrain.
Parce que justement, un travail du terrain auprès des entrepreneurs démontre les bénéfices.
Et à commencer à planter du manioc jusqu'à faire du tapioca, jusqu'à exporter. Cette personne pouvait le faire parce qu'elle avait un hectare ou deux hectares. Alors, dans l'informel, différents types de travailleurs seront touchés différemment. Je vais revenir sur un autre point,
allez,
sur la déforestation. Nous n'avons pas besoin d'attendre que l'Europe vienne nous dire de protéger nos forêts. On protégeait nos forêts bien avant l'euro et on va continuer à protéger nos forêts. C'est à nous de prendre de l'avance et de penser à la gestion de nos ressources bien avant que l'Europe ne vienne. Alors quand l'Europe vient et nous dit, mais voilà, un accord, vous ne faites pas bien, etc., ça veut indiquer que le Cameroun, nos décideurs, nos parties prenantes, ne prennent pas la responsabilité pour le faire. Alors, et quand nous signons ces accords, c'est parce que tu ne prends pas de l'argent de quelqu'un sans prendre ses valeurs. Si tu prends mon argent, tu vas prendre mes valeurs. Et l'Allemagne l'a dit très clairement. Alors, si nous prenons 1 milliard de l'argent français de la France chaque année pour investir dans des routes, des récoltes et la gestion des déchets, nous devons également faire en sorte qu'on protège nos forêts. N'est-ce pas? En ce qui concerne le cacao, la raison pour laquelle, donc avant de passer au cacao, on doit protéger nos ressources et gérer nos ressources mieux, parce que c'est nous qui utilisons nos ressources. C'est vrai que les accords peuvent provenir de l'Europe, des États-Unis, de la Chine, de l'Asie, etc. Mais nous devons d'abord le faire. Prenant cette responsabilité veut dire que ces accords vont venir nous trouver et notre performance sera bien mieux que ces accords. Il y a des pays comme la Suède, la Norvège qui ont signé les accords des Nations Unies, mais sont en train de transitionner très vite. Et pour revenir au cacao, bien sûr, on ne rejette plus notre cacao à l'international parce qu'on nous a dit de ne pas utiliser les triages pour sécher. Ça, c'est pas quelque chose qui a pris 5 ans, ça a pris 10 ans parce que les gens le faisaient et on envoyait notre cacao jusqu'au Japon et on l'envoyait au Cameroun. Juste en Europe, on envoyait au Cameroun et on disait, ouais, ils ne veulent pas faire le commerce avec les Africains. Non, c'est parce que les carcinogènes causent du cancer, c'est vérifié. Alors, on a arrêté ces pratiques et moins de 5% de notre cacao est rejeté aujourd'hui. Donc, d'une part, ces accords nous imposent des conditions, mais c'est important pour nous d'abord de prendre l'initiative pour qu'on ne se sente pas imposé.
Je pense qu'il faut un accompagnement.
Oui, absolument. L'ANOR, par exemple, certifie les produits, donne des indications à différents producteurs.
Peut-être avant la certification, les producteurs ont besoin d'un accompagnement. Je pense qu'on évoquera, parce que je veux toucher le rôle de l'État. Mais pour rester sur un aspect du rapport, je voudrais poser la question à M. Yannick Guilloui de cette manière. Le rapport nous dit la zone de libre-échange continental, c'est bien pour le Cameroun. Les APE, c'est bien pour le Cameroun. Je voudrais poser une question simple. Peut-on parler de ces accords en termes de bénéfices pour le Cameroun dans un contexte où la libre circulation des biens et des personnes est un véritable problème, ne serait-ce que dans notre sous-région, Afrique centrale?
Oui, en réalité, vous savez, en l'état actuel des choses, il est très difficile de parler immédiatement du bienfait des accords de partenariat. Mais tout à l'heure, votre prise de position était une pertinence dans la mesure où, si on veut parler des accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne, qu'on parle de ses spécificités. Si on veut parler du large marché de la zone de libre-échange, qu'on parle des spécificités. Parce que le rapport que le Cameroun a avec l'Union européenne, ce n'est pas le même rapport que l'Égypte ou l'Afrique du Sud avec ses pays partenaires, compte tenu de leur spécificité industrielle, de leur marge de manœuvre, de tout ce qui va avec. Maintenant, la problématique centrale aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'on a beaucoup travaillé sur la préférence nationale dans toute sa composante? Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que nos États, dans leur extraversion, ont beaucoup de failles et beaucoup de difficultés à tirer profit, n'est-ce pas, des opportunités de marché qui s'offrent à nous. L'accès au marché africain peut être beaucoup plus facilité que l'accès au marché européen. Parce qu'à tout moment, on sait qu'aujourd'hui, l'Union européenne peut brandir la question de la norme, par exemple, comme un instrument de guerre économique pour décourager la concurrence étrangère. Ce qui peut ne pas être forcément le cas entre nous autres pays africains en fonction de nos particularités. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, par exemple, du secteur informel qui occupe plus de 80 à 85% de la main-d'œuvre active dans le Cameroun, vous irez au Nigeria, vous verrez la même réalité. Ça veut dire que nous avons une identité commune qui nous permet
de bénéficier d'un marché africain que d'un pays comme le Cameroun qui va seul signer un accord de partenariat économique avec l'Union européenne en abandonnant le Gabon.
Mais si on se limite sur la ZELCAF simplement, on a des potentialités, mais on n'arrive même pas à circuler. J'arrive pas à transporter quelque chose d'ici pour le Gabon, simplement à côté. Il faut passer par des barrières, il y a les textes, mais. Et s'il faut maintenant transporter, exploiter tout l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, comment je fais ici? Partout, j'ai des barrières.
Parce qu'il y a des préalables.
Okay.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, concernant la zone de libre-échange continentale africaine, il faut d'abord insister sur les bases à mettre sur pied, les recommandations dont on parle. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on voit la problématique du financement, nos pays africains sont capables de lever des financements et financer de l'industrialisation sans passer forcément par les institutions internationales. C'est un pays comme le Cameroun qui aujourd'hui n'a pratiquement ni politique budgétaire, ni politique économique. Ce qui fait en sorte que si vous lancez un vaste projet d'industrialisation et que l'on vous dise que non, il faut d'abord équilibrer le budget, il faut équilibrer les finances publiques, il faut baisser la subvention des prix à la pompe. Alors qu'on connaît la réalité conjoncturelle qui mine notre pays aujourd'hui, vous voyez qu'à ce niveau, on est bloqué. La deuxième chose, c'est que dans nos États, lorsqu'on parle de la préférence nationale, on n'a pas suffisamment éduqué le consommateur.
Sur le médicament.
Sur le médicament.
Mais parce qu'il coûte peut-être trop cher.
Après, il y a des. Oui, oui, ça coûte très cher. Parce que est-ce que tu vas acheter du vin made in Cameroun à 4300 or, tu vas acheter un vin moins cher.
Je prends le participant à témoin. Je ne sais pas, pour les dames qui sont dans la salle, le riz le plus accessible. Je ne sais pas si le riz indien, broli ou tant de choses, mais face au riz de dame. Je viendrai à vous. Yeah.
Ah oui. My name is Mr. Eric from Nigeria.
Yeah.
I'm too sorry to say this because I've been lost completely. Yes. I know the image made us here. I'm also an English man. So if I try to improvise a little, I should have something to take home.
Okay, to say something in English.
No, it should be yes.
Okay.
Because I've completely lost.
Sorry
I've
for that.
Out before and...
Thank you for your remark. Very, very important. It's not the fact that you are not able to speak in English, and I think your observation is you are totally right. So, I think Mr. Henry here, myself, we can say something.
Yes.
Let's go to recommendation in English now to help our participant. You can start in French, right? So, in terms of recommendation, exactly, the government of Cameroon to maintain the competitivity of small and medium enterprises. What special recommendation can you make to the state of Cameroon in this context of ZELCAF or AFTA and APE?
Okay, firstly, I hope Ari Kwame will translate it.
Yes, certainly. No, I think you should do it in French.
Okay. Okay. I think Cameroon is bilingual. It's not so
Donc, en termes de recommandation, la question des infrastructures. D'abord, parce que vous avez la femme rurale aujourd'hui qui travaille énormément. Vous avez des denrées, par exemple les matières premières telles que les pluies, qui peuvent permettre la production des vins et tout ce qui va avec. Pour les acheminer, des campagnes pour les grands marchés, c'est très complexe. Donc si on résout ce problème, on pourra résoudre les problèmes des bêtes post-récolte et les coûts de production pour les industriels camerounais. La deuxième chose, c'est de travailler sur la mentalité du consommateur. On devrait avoir notre chaîne nationale qui ouvre des pages spéciales sur l'idéal de la préférence nationale. Parce que cette chaîne nationale, c'est l'idéal de la préférence nationale. Et même dans un combat citoyen, tous les acteurs économiques, même les médias privés, à travers leurs promoteurs et tout ce qui va avec, travaillent davantage pour montrer aux consommateurs que quand tu vas acheter un produit local, tu t'enrichis toi-même. Parce que c'est ça le problème. On dit que le vin importé coûte moins cher. Bon, j'ai entendu cela.
Oui,
il faut le prouver. Parce que on voit combien les gens dépensent pour le champagne, notamment les chiffres sont clairs. Ce n'est pas un problème de coût d'argent. Vous avez vu les brasseries, vous faites état de ce que les Camerounais ont énormément de liquidités pour pour consommer de l'alcool.
600 millions de litres de bière, l'équivalent du Vaury, du début jusqu'à la fin.
On a parlé de pratiquement 800 milliards de francs, c'est pas dépensé par le consommateur camerounais. Donc, il a le pouvoir d'achat, il ne se pose pas, mais est-ce que la présence d'esprit du consommateur camerounais l'amène davantage à considérer le Made in Cameroun comme étant un produit qui l'enrichit et qui enrichit son environnement.
Donc l'État doit éduquer les Camerounais à la préférence
nationale.
Troisième recommandation.
Troisième recommandation, j'ai parlé de la question du financement. Nous ici, au plan national, on peut lever des fonds de manière autonome, si on le veut, parce que la dépendance vis-à-vis des financements qui viennent de l'extérieur, du FMI, de la Banque mondiale, restreint nos marges. La troisième chose, c'est la question de la transition. Vous voyez que nos États sont tellement faibles. Vous avez vu récemment, on vous a dit qu'on a trouvé un jambon contaminé quelque part.
Oui.
On préfère ne pas évoquer le supermarché.
Yes.
On a trouvé un jambon contaminé et c'est l'alerte de l'Union européenne qui renseigne aux Camerounais et au ministre des Pêches et des Issues animales qu'il y a, n'est-ce pas, un aliment qui a commencé à être consommé. Ça veut dire que sur la question des normes, on est encore très faible. En termes de laboratoire, en termes de contrôle qualité, en termes. Donc, c'est un aspect fondamental sur lequel il faut travailler et investir.
I within 4 points of your intervention. First of all, Cameroon government should improve infrastructure, work on infrastructure. Secondly, educate Cameroonians to national preference. Thirdly, the funding. And thirdly, the question of norm. Mr. Henri Kouan. Oh, Mr. Choupé. Yeah. What recommendation exactly?
Merci de me passer la parole, monsieur le gouverneur. Ma recommandation porte essentiellement sur l'amélioration de l'infrastructure, notamment le développement.